Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ces deux jours dans le cadre de Biblio 2057, retour vers le futur de la lecture publique. À l'occasion des 40 ans de la Bibliothèque publique d'information, il nous a semblé intéressant de proposer un programme autour de 40 ans de lecture publique, mais aussi l'état présent et les projets d'avenir, d'où la construction chronologique de ces deux journées 1977, 2017, 2057. Les bibliothèques ont beaucoup évolué et continuent à se construire au plus près des citoyens. Elles jouent un rôle majeur d'accès à l'information et à la culture. Elles sont vivantes et mutantes, dans une société elle-même en perpétuel changement, dans une accélération du temps où elles ne cessent d'innover. Ce matin, donc, un regard plus historique en présence de Dominique Lahari et autour d'une table ronde qui rassemblera autour d'Anne Verneuil, Marine Bedel, Joël Clos et Dominique Rouet. Et ensuite, nous partirons vers le futur immédiat, cet après-midi et demain matin, avec d'abord trois projets internationaux qui nous seront présentés, celui de la ville de Québec, celui de la bibliothèque d'Oslo et celui des bibliothèques de Barcelone. Demain matin, nous aurons un forum des projets nationaux où nous rassemblons, où nous avons souhaité rassembler autour de temps d'échange dans la bibliothèque une vingtaine de projets qui nous ont semblé innovants, importants, à découvrir, à discuter tous ensemble. Et puis, nous nous essaierons l'après-midi à une bibliofiction afin de se propulser vers 2057 et donc vers l'avenir. Je voulais juste vous signaler le désistement de dernière minute de Mathieu Boudin de l'Institut des futurs souhaitables qui était prévu demain en fin de matinée. Et je laisse la parole à Serge Lasvigne, président du Centre Pompidou, pour cette introduction et ensuite à Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture du ministère de la Culture.
Merci Christine. Il y a quelques semaines ici, enfin, au Centre Pompidou, on lançait la mission confiée à Eric Orsena, vous savez, l'ambassadeur des bibliothèques. On a beaucoup parlé de questions d'organisation de services, temps de travail, de modalités d'accueil. Et je trouve que c'est très bien d'enchaîner finalement rapidement sur une manifestation de ce genre où on va parler du fond, du contenu, quel type de services peuvent donner les bibliothèques aujourd'hui. Et on le fait d'une façon que je trouve très intéressante, c'est-à-dire en combinant une approche bilan, projet, utopie. L'utopie, au Centre Pompidou, on y attachait, cette architecture est une architecture qui était utopique, qui a été faite à partir des réflexions de travaux d'architectes qui n'avaient jamais construit, d'ailleurs. Et je crois qu'il est intéressant, dans nos institutions culturelles, de conserver cette sorte de désir d'utopie. En même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à de nouvelles approches. On peut s'inspirer de la démarche des start-up, c'est-à-dire privilégier aussi le projet rapide, construire avant d'être sûr, se reconnaître un droit à l'échec, tenter, imaginer, vérifier, expérimenter. Et je trouve que la structure de vos travaux rend bien compte de ces deux démarches, la projection vers le futur, y compris le futur imaginé, et la réalisation immédiate avec les risques que cela suppose, mais aussi une véritable prise sur le réel. Finalement, les musées et les bibliothèques, les deux institutions qui sont rassemblées ici, ont, par rapport au futur, de larges points communs, je crois. D'un côté, une mission de service public, qui est très forte, très claire, plus que jamais nécessaire, en des temps de repli sur soi, d'incertitude sur les valeurs. Et puis, en même temps, une incertitude très forte sur l'avenir et les modalités d'exercice de cette mission. D'abord parce qu'il y a des chocs technologiques que vous connaissez mieux que moi, il y a les progrès de la dématérialisation, et on sait aujourd'hui à quel point le numérique, le développement du numérique et de la dématérialisation a un aspect ambigu, bonne chose, précieux outil, et en même temps chose inquiétante, nivellement de l'information, tout revient au même. Et puis aussi à cause des comportements sociaux et à cause, je dirais, de cette sorte de porosité qui s'établit entre les institutions. Il n'y a plus véritablement aujourd'hui de précaré pour les institutions culturelles. Tout ceci se chevauche, tout ceci devient fluide. Vous voyez ici au Centre Pompidou, par exemple, quand on se demande qui est chargé de l'animation culturelle, est-ce que c'est la bibliothèque qui a ses projets culturels? Est-ce que c'est le département du développement culturel qui existe au Centre Pompidou? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'ils doivent le faire ensemble ou chacun en fonction de préoccupations et de cultures différentes? On est là au cœur d'un des sujets qui se posent. Alors moi, je ne prétends pas anticiper sur vos travaux, mais je me rends compte, simplement en tant qu'honnête homme, je dirais, à quel point les interrogations sur l'avenir des bibliothèques jaillissent facilement aujourd'hui. Quel sera l'impact de la dématérialisation? Et puis, finalement, la bibliothèque en 2057, ça sera quoi? Ça sera un musée du papier? Ça sera le dernier des lieux de silence? Ou ça sera devenu un lieu de murmure? Ou un espace de coworking? Ou alors ça ne sera plus aucun lieu, parce qu'on n'éprouvera plus du tout la nécessité, le besoin d'un lieu au sens physique du terme? Et donc ce sera une fonction, exercée à distance? Voilà les questions qui, finalement, viennent, y compris à l'esprit de quelqu'un qui, comme moi, n'est pas un spécialiste du sujet. Il y en a d'autres qui se profilent. On voit se développer les services dans la bibliothèque, la sociabilité. On installe des galeries, des espaces d'exposition, on installe des cafés, des restaurants, etc. Mais alors, c'est quoi, ça? Est-ce que ce sont, je dirais, est-ce que c'est une façon de retarder un déclin annoncé? Dernier soubresaut d'une institution qui essaye de vivre? Ou est-ce que ça préfigure un véritable projet? Mais quel projet au juste? Et puis, il y a la question, je dirais, de la valeur ajoutée. Ce sera quoi, la valeur ajoutée des bibliothèques dans 40 ans? Est-ce que ça signifie que les bibliothèques arriveront à structurer l'information, ce qui est un besoin, on le sait, nécessaire? Est-ce qu'elles produiront des contenus au sens où elles seront formatrices elles-mêmes parce qu'elles aideront à se déplacer dans le flot de l'information? Est-ce qu'elles participeront de cette façon plus étroitement à la mission de formation? Est-ce que les frontières entre université, enseignement et bibliothèque s'atténueront? Voilà ce genre de questions qu'on peut se poser. Elles sont absolument cruciales. Et donc, elles nécessitent quoi? Elles nécessitent une réflexion sans préjugés, mais avec, je crois, beaucoup d'imagination et aussi une sorte, je dirais, de sentiment d'urgence. Parce que j'ai véritablement la conviction qu'actuellement, on est, vous savez, dans un de ces carrefours où les institutions jouent leur futur. Et donc, c'est très bien que vous soyez réunis ici.
Merci. Monsieur le Président du Centre Pompidou, Madame la Directrice de la Bibliothèque, mes chers collègues et mes chers amis, merci de donner au directeur que je suis l'occasion d'ouvrir cette journée dont le programme ambitieux propose de dresser, vous l'avez dit, Monsieur le Président, un panorama des bibliothèques françaises entre le passé, le présent, l'avenir, et avec cette dose d'utopie que le Centre a su, dans sa propre histoire, générée très régulièrement. Je me réjouis surtout qu'elle se tienne ici, au sein d'un établissement dont la création a été un jalon fort du développement de la lecture publique en France, on le sait. La rénovation de la BPI va lui permettre de disposer d'espaces qui, nous l'espérons tous, seront, sinon jusqu'en 2057, du moins pendant un certain nombre d'années, à la mesure des missions de cette grande bibliothèque, résolument tournée vers le futur et l'innovation. Quelle meilleure occasion qu'une commémoration, celle des 40 ans de la BPI, pour se livrer à un tel exercice de prospective, d'anticipation, de réflexion sur les bibliothèques et la lecture publique. Alors, ces journées sont d'abord l'occasion, vous l'avez rappelé, Christine, d'une rétrospective. Il faut se réjouir de voir aborder 40 ans de bibliothèques et de lecture publique en France, racontés, qui plus est, par quelques-uns de leurs principaux acteurs. Revenir sur ces quatre décennies, c'est retracer un impressionnant et continu développement durant cette période. On a beaucoup parlé dans les années 60 d'un retard français en matière de lecture publique. Et il est vrai qu'au moment où la Bibliothèque publique d'information a été lancée en 1977, eh bien ce paysage français était particulièrement contrasté. Et on citait généralement des exemples bien plus brillants, qu'il s'agisse de l'Amérique du Nord, ou des réseaux de l'Europe du Nord, dont nous venaient maints exemples de pratiques particulièrement innovantes. Il me semble qu'on peut aujourd'hui se féliciter du résultat de 40 ans d'efforts conjoints des collectivités publiques, État, collectivités territoriales, qui ont permis de doter notre pays d'un maillage de bibliothèques singulier. Le concours particulier, vous le connaissez, de la DGD, il faut rendre hommage à mes prédécesseurs, notamment à Jean-Sébastien Dupuis, qui a joué à ce titre et continue à jouer un rôle extrêmement important en matière de création architecturale et d'anticipation, précisément, sur cet objet et ce lieu qu'est encore la bibliothèque. La participation de l'État au coût d'un projet permet d'encourager des réalisations réussies. Vendredi dernier, précisément, nous étions à la deuxième édition de ce que nous avons appelé « Parole d'architecte sur les bibliothèques ». C'était les Journées nationales de l'architecture à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et nous avons pu évoquer, entre professionnels et architectes, ce dialogue fructueux entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les professionnels des bibliothèques que vous êtes. Il y avait d'ailleurs Patrick Rubin qui est chargé du projet de rénovation. Et précisément, l'une des problématiques qui était posée, c'était la rapidité ou la durabilité, la rapidité d'obsolescence des projets de bibliothèque, à un moment où un programme de bibliothèque, on ne sait plus véritablement ce que c'est, finalement. Comme le disait le président Lasvigne, ça a tendance à se dissoudre, à se liquéfier d'une certaine manière, pour devenir le programme d'un lieu de vie. Or, qu'est-ce que c'est qu'un lieu de vie ? Belle question d'anticipation, évidemment, pour les professionnels et les architectes. C'est cet investissement continu qui a permis de constituer un réseau dense, efficace, structuré. Je tiens particulièrement à souligner le rôle des bibliothèques départementales en la matière, l'engagement de leurs professionnels pour garantir un réseau au maillage étroit et d'exceptionnelle qualité. L'évocation par Dominique Lahari de sa carrière de bibliothécaire, entamée, je l'ai appris en parcourant ce programme, la même année que la création de la BPI, en sera certainement une illustration vivante. Cet équipement est cependant loin d'être achevé. Le rapport de l'inspection paru en 2015 sur l'équipement des communes et des groupements de communes en bibliothèque a montré à quel point il reste beaucoup à faire en la matière, alors que nous avions prédit, il y a quelques années de cela, la fin précisément des bibliothèques avec la dématérialisation des contenus qu'elle est censée porter. L'intervention de Joël Clos, rapporteur du rapport aux côtés de Jean-Luc Gauthier-Jantet, sera l'occasion d'aborder cette question fondamentale à laquelle l'État, garant de l'égal accès de tous à la lecture, est particulièrement attentif. Malgré ses insuffisances, l'existence de ce réseau est une force, une vraie opportunité, un levier essentiel pour mettre en œuvre ce que nous continuons d'appeler la démocratisation culturelle. Quel autre réseau peut se targuer d'une telle proximité avec les concitoyens français, d'une telle mixité de ses publics ? Cependant, et vous le savez bien, l'effort d'investissement, tout aussi soutenu soit-il, quelle que soit l'ambition du geste ou l'intelligence architecturale qu'il préside, ne saurait suffire. Et la modernisation des bibliothèques, leur adaptation à un contexte en constante évolution des usages, a été, en parallèle de l'équipement du territoire, un chantier continu. Je tiens ici à saluer la manière dont les collectivités territoriales se sont emparées de leurs bibliothèques avec les professionnels que vous êtes, pour les moderniser, en faire des équipements adaptés à leur territoire. Alors, dans ce domaine aussi, il reste beaucoup à faire, et l'année 2018 va nous occuper avec plusieurs chantiers d'envergure qui vont précisément s'intéresser à l'avenir des bibliothèques en essayant d'exercer cette tâche d'anticipation. Le gouvernement a souhaité, vous le savez, favoriser la transformation des bibliothèques dans ces fameux lieux de vie que nous cherchons, ouverts sur leur territoire. Cela pose évidemment la question des horaires d'ouverture, première condition à leur fréquentation. Nous avons bien conscience que la question de ces horaires est complexe, d'autant plus qu'elle ne relève pas d'un seul modèle qu'il suffirait d'appliquer partout, de manière uniforme. Notre ministre a souhaité partir de ce qui se fait sur les territoires en s'appuyant sur les expériences réussies pour accompagner les collectivités dont les bibliothèques ouvrent moins que d'autres. Éric Orsenna, accompagné de Noël Corbin, est actuellement en train de rencontrer les parties prenantes sur l'ensemble du territoire pour recueillir les initiatives, les attentes dans le cadre de sa mission d'ambassadeur de bonne volonté, confiée par Françoise Nyssen, comme elle a pu vous le dire ici, le 21 septembre dernier, certains participaient peut-être à cette séquence de lancement. La question des moyens pour compenser, bien entendu, cet effort des collectivités est importante, vous le savez, et au centre des discussions. Deux inspections, celle de la culture, celle du ministère de l'Intérieur, mènent en parallèle une mission de chiffrage des coûts de l'extension des horaires. Elle doit permettre de calibrer l'aide de l'État aux collectivités afin de les accompagner financièrement dans cette ambition. Le Tour de France d'Éric Orsenna est l'occasion de mettre en lumière ces équipements dans toute leur vitalité et leur diversité. C'est le moyen de montrer que, si elles participent de l'accès à tous à la culture, si elles développent l'imaginaire, les bibliothèques sont aussi des lieux du lien social, de la rencontre intergénérationnelle qui participe à la vitalité d'un territoire. Ce sont aussi des endroits où l'on se forme, des lieux d'éducation, d'accompagnement du développement du numérique. Pour les professionnels des bibliothèques, il s'agit d'une transformation entamée depuis longtemps. Pourtant, il apparaît que cette évolution des bibliothèques est souvent trop peu visible des décideurs, notamment parce que leurs effets sont difficiles à objectiver. C'est la raison de l'engagement du ministère de la Culture en partenariat avec l'ABF et la BPI sur une grande enquête consacrée à ce qu'on appelle l'impact économique des équipements culturels, et plus particulièrement, bien entendu, des bibliothèques. Dans un contexte budgétaire difficile pour les collectivités, il s'agit d'évaluer l'impact qu'ont leur action dans plusieurs champs de l'action publique, sociale, éducative, environnementale même, afin de mieux apprécier ses effets et l'amélioration de la qualité de vie qu'elles permettent à la société. Cette étude se veut, bien entendu, rigoureuse dans sa mise en œuvre. Elle permettra d'appuyer des démarches d'advocacy, de plaidoyer en faveur de ces équipements sur des bases scientifiques solides. À ce titre, j'espère qu'elle pourra constituer pour les collectivités un outil d'aide utile à la décision en matière de politique culturelle. C'est aussi l'un des enjeux de l'enquête annuelle réalisée par l'Observatoire de la lecture publique auprès du ministère de la Culture, qui permet chaque année, vous le savez, puisque vous remplissez ces fameux bordereaux, d'avoir une meilleure connaissance du paysage national. Nous allons mettre en ligne, aujourd'hui même, le rapport annuel pour 2015 de l'activité des bibliothèques municipales et bientôt celui des bibliothèques départementales. Enfin, quatrième chantier qui convergera, là aussi, vers le mois de mars, entre mars et juin, date de convergence des exercices que j'ai précédemment décrits, une réflexion sur le cadre normatif dans lequel évoluent les bibliothèques. Monsieur le Président, vous avez dit mission de service public. Est-elle aussi claire que ça aujourd'hui, cette mission de service public? Nous nous sommes beaucoup collectivement interrogés sur cette question. Et la sénatrice Sylvie Robert, vous le savez, mène de son côté une réflexion sur ce que pourrait être un cadre législatif plus adapté à l'action des bibliothèques, qu'il s'agisse précisément de réaffirmer ou de réinterroger leur mission de service public, mais également d'interroger ce que peut être le développement du numérique dans leurs murs. Cette démarche devrait aboutir également dans le courant du mois de mars, avec, nous l'espérons, un colloque consacré aux droits et aux normes régissant l'activité des bibliothèques. Je laisse aux intervenants de cet après-midi, bien sûr, le soin d'imaginer le futur des bibliothèques, même si je peux avoir moi-même un certain nombre d'idées en la matière. Ce n'est pas un exercice facile, le président Lasvin l'a dit. Beaucoup ont prédit la mort du livre et des bibliothèques au cours des 40 dernières années. Et pourtant, elles n'ont jamais été aussi fréquentées qu'aujourd'hui. Elles le sont de plus en plus, décennie après décennie. À défaut d'avoir fait de la bibliofiction, il me semble que ce bref détour par le passé et le présent nous montre que les bibliothèques n'ont cessé d'évoluer. Cette capacité, cette plasticité à s'adapter permettra à ces équipements, j'en fais ici le pari, d'évoluer en phase avec le monde contemporain, aujourd'hui et en 2057. Je vous souhaite de bons travaux. Merci pour votre attention.